Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée au Pakistan. Le Pakistan dont le nouveau Premier ministre Imran Khan vient d'ouvrir un nouveau chapitre dans la longue histoire du pays qui consiste à user de sa position stratégique pour s'attirer des soutiens étrangers. Cette fois-ci, c'est vers les nations de la péninsule arabique qu'Islamabad s'est tourné afin de maintenir à flot l'économie nationale. Regard sur le sixième pays le plus peuplé de la planète, 208 millions d'habitants, mais dont plus de 20 millions d'enfants sont privés de scolarité et moins de 30% des femmes ont un emploi. Les exportations du Pakistan n'atteignent pas le cinquième de celles du Bangladesh et de l'Inde. La persistance de la pauvreté et la mauvaise administration ainsi que l'instabilité qu'elle génère sont un désastre pour le pays. Puissance nucléaire au demeurant où le fanatisme religieux semble avoir de beaux jours devant lui. Nos invités, Jean-Luc Racine, directeur de recherche et chercheur senior à Asia Centre. Bonjour.
Bonjour.
Gilles Boquera, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur de Le Pakistan sans question aux éditions Talents. Bonjour.
Bonjour.
L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont donc offert au Pakistan 30 milliards de dollars en prêts et investissements. Mohamed Ben Salman est attendu pour une visite au Pakistan en février prochain. Le plan comporte un volet énergétique, 10 milliards de dollars pour construire une raffinerie de pétrole et un complexe pétrochimique. Une décision qui se fait, semble-t-il, au détriment de l'Iran, voisin du Pakistan, qui aurait souhaité, avec les sanctions qui lui sont imposées, être un fournisseur en énergie majeure. Monsieur Khan a été l'un des rares leaders mondiaux à faire le déplacement en Arabie Saoudite à l'automne dernier pour un grand sommet économique. Quelle analyse faire de ce prêt des Émirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, Jean-Luc Racine?
En fait, ça traduit deux choses. D'un côté, ce besoin des autorités pakistanaises d'essayer de sortir de la nasse dans laquelle l'économie et surtout les finances du pays sont engoncées. En parallèle à ces facilités offertes par l'Arabie Saoudite, par les Émirats, peut-être demain par le Qatar, et des négociations entamées avec la Chine pour obtenir là encore des facilités financières, il y a vraiment l'ampleur de la crise qui met le gouvernement dans une position difficile, déficit courant, déséquilibre majeur de la balance commerciale, etc. Je passe sur les détails. Mais dans le même temps et depuis longtemps, le gouvernement est engagé dans des négociations avec le Fonds monétaire international. Mmh. Et le ministre des Finances a fait une sortie dans la presse en disant que le pays ne se mettrait pas à genoux, sous-entendu devant les recommandations du Fonds monétaire international. Et de ce point de vue-là, quoi qu'il arrive des négociations avec le fonds, qui demande des réformes structurelles selon son habitude, se tourner vers l'Arabie Saoudite et les Émirats, c'est jouer pas simplement une carte économique, mais évidemment une carte géopolitique. Les conditions offertes par l'Arabie Saoudite et par les Émirats, ce sont des prêts qui sont à des taux bas, mais par exemple pour l'approvisionnement pétrolier ou gazier, et là revient ce qui vient d'être dit sur l'Iran qui aurait aimé se positionner là-dessus, mais ça c'est une très vieille histoire, les tarifs iraniens étant généralement jugés assez élevés par ses clients, on voit bien que en réalité les liens politiques entre le Pakistan et l'Arabie Saoudite, où de nombreux leaders ont connu l'exil, où les princes saoudiens vont éventuellement à la chasse au Pakistan. Les liens sont étroits et on voit bien que, faut se rappeler aussi que le Pakistan a accepté que son ancien chef d'état-major devienne le commandant de la force intervenant, de la coalition intervenant au Yémen, ce qui a suscité des débats dans le pays.
Mais ce qui ne s'est pas fait spontanément non plus. Le Pakistan avait beaucoup tergiversé sur cette participation.
Le Pakistan avait tergiversé parce que justement, il ne veut pas se couper non plus de l'Iran, qui est son voisin. Fondamentalement, donc, les conditions qui sont offertes, et ça n'est pas la première fois par l'Arabie Saoudite, c'est par exemple des crédits conséquents sur l'achat de pétrole et des choses comme ça, c'est quelque chose qui est très utile au Pakistan, et les conditionnalités que va demander le Fonds monétaire international, là, ne se posent pas. Et c'est la même chose vers ce que le Pakistan essaie de faire avec la Chine, où il espère aussi avoir des facilités pour débloquer un peu des exportations pakistanaises.
On reviendra sur le cas de la Chine. Gilles Bokera, ce prêt de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, prêt et investissement, c'est aussi pour permettre au Pakistan de se présenter plus en force dans sa demande auprès du FMI.
Oui, c'est vrai que les indicateurs macroéconomiques du pays sont pas très bons. Hein. Déficit budgétaire qui approche les 6%, une balance commerciale, on importe deux fois plus ce qu'on exporte. Personne ou presque ne paie l'impôt sur le revenu. Donc évidemment, il y a un gros problème financier dans ce pays. Moi, ce qui me frappe, c'est que depuis que Imran Khan est au pouvoir, c'est que ses visites ont essentiellement été tournées vers des pays musulmans. Mmh. Ceux qui ont été cités, du Golfe Persique, évidemment, ou du Golfe Arabique. Et puis les deux autres, c'est la Turquie et la Malaisie. C'est encore une fois des pays musulmans. Bon, si on excepte évidemment la Chine, mais la Chine c'est un peu incontournable vu que évidemment, vu la situation financière du pays, le recours à la Chine est indispensable.
Et les projets chinois par ailleurs de route de la soie, on en parlera.
Oui, les fameux 50 milliards ou plus de crédits avancés par la Chine pour la réalisation de différents projets au Pakistan. Mais effectivement, il y a cette volonté, ce qui est je pense à peu près unique chez un dirigeant pakistanais, c'est d'écarter totalement des visite vers des pays occidentaux. Et c'est, je crois, il n'y a pas de précédent. Hein. On se tourne uniquement vers des pays musulmans à ce jour. Alors, est-ce qu'il faut rapprocher ça du fait que Imran Khan avait promis, après son intronisation, de créer un état de welfare sur le modèle de Médine du temps du prophète Mahomet? Bon, on peut dire que effectivement, il y a une volonté idéologique de puiser dans l'héritage musulman qu'on retrouve chez Imran Khan, qu'on trouvait pas forcément chez Nawaz, Sharif ou Zardari.
Ses prédécesseurs.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
La Chine, Jean-Luc Racine, il y a ce projet de grand corridor qui justifie des investissements chinois importants au Pakistan. Il est question de plus de 60 milliards de dollars. Qu'en est-il de la relation entre le Pakistan et la Chine aujourd'hui ?
Il y a deux choses à prendre en compte. D'un côté, il y a donc ce corridor économique sino-pakistanais, puisque c'est son nom, qui a été présenté par le gouvernement précédent, celui de Nawaz Sharif, comme étant finalement la clé d'un avenir radieux. Aujourd'hui, on commence à déchanter un peu, et ça n'est pas propre au Pakistan. En Malaisie, Mahathir arrivant au pouvoir a remis en question des projets de même ordre, au Sri Lanka aussi. En fait, la vraie question est de savoir ce qu'est la nature véritable des investissements chinois dans le pays.
Essentiellement des investissements, pardonnez-moi, je vous interromps, en infrastructure, davantage que d'investissements dans des industries
possibles.
Non,
il y a les deux maintenant. Il y a les deux. Et il y a évidemment un accès à certaines ressources minières pakistanaises, mais c'est censé jouer sur les deux. La vraie question est moins là que quelles sont les conditions offertes par les Chinois. C'est-à-dire, est-ce qu'en réalité, le pays risque peut-être plus que d'autres, vu l'importance présumée de ce projet considérable, risque de tomber dans le piège de la dette ? Et ça n'est pas par hasard si certains députés pakistanais, il y a déjà un bon moment, avaient dit « Attention, le projet chinois, c'est la nouvelle compagnie des Indes ». C'est-à-dire, on vient en disant qu'on vient faire du commerce et on finit par mettre la main sur le pays, ce qui était quand même une comparaison assez vive. Donc évidemment, le gouvernement s'efforce de calmer ses inquiétudes. Imran Khan, ça a été dit, est allé bien sûr en Chine. Les Chinois sont aujourd'hui à peu près 45 000 au Pakistan. Il y a une dizaine d'années, ils étaient à peine 10 000. Donc, il se passe des choses. La Chine protège systématiquement le Pakistan quand il y a des interrogations sur sa politique antiterroriste. La Chine bloque des initiatives indiennes à cet égard, donc la fidélité vis-à-vis du frère pakistanais, pour reprendre la rhétorique habituelle, est toujours là, ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que les Chinois ne regardent pas au plus près ce que sont les risques de la politique pakistanaise vis-à-vis de l'Afghanistan. dont on parlera peut-être.
Tout à fait.
Parce qu'évidemment, ça concerne les Chinois au premier chef, avec la crainte d'une porosité entre l'Afghanistan et le Xinjiang. Et on sait qu'aujourd'hui, comme hier, une des clés de l'avenir afghan passe par ce que sera la politique pakistanaise.
On en parlera. Gilles Bokhera, ce rapprochement du Pakistan avec la Chine, avec les projets que Jean-Luc Racine vient d'évoquer, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Inde. Alors, le Premier ministre Khan s'était dit en faveur du dialogue avec l'Inde, qui est, on peut le rappeler, son grand rival régional. Ça n'a pas vraiment démarré. Alors, il y a tout de même ce corridor entre l'Inde et le Pakistan sur fond de religion. Hein, finalement, c'est permettre aux Sikhs des deux côtés de pouvoir procéder à un pèlerinage, etc. Alors, cette absence de rapprochement avec l'Inde, c'est du fait des élections prochaines en Inde. Enfin voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a des petits pas modestes en avant, mais le fond reste le même, c'est-à-dire grande rivalité.
Oui, c'est vrai que dans son premier discours, Imran Khan avait rappelé qu'il était presque le Pakistanais le mieux placé pour développer une politique de la main tendue vis-à-vis de l'Inde, du fait que de son passé de joueur de cricket, il s'était rendu plusieurs fois en Inde, et puis après, comme en tant que personnalité publique importante, il a été plusieurs fois invité à des conférences en Inde. Donc effectivement, il connaît bien l'Inde. Maintenant, c'est pas pour autant que les relations se sont apaisées entre les deux pays. Elles sont encore gouvernées par le fait que, du côté indien, on reproche toujours aux Pakistanais de pas faire assez pour contrôler ces groupes djihadistes, soit le Lashkar-e-Taiba ou le Jaish-e-Mohammed. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'évolution. Vous avez parlé des questions du corridor mis en place pour faciliter des pèlerinages de pèlerins sikhs indiens vers le Pakistan. Enfin, c'est juste de l'autre côté de la frontière, à quelques kilomètres, à 4 kilomètres de la frontière indo-pakistanaise. Mais on voit pas d'évolution majeure. Effectivement, bon, le fait que les élections en Inde se précisent pour le printemps 2019 fait qu'il est difficile de développer un dialogue poussé actuellement. On attend le résultat de ces élections indiennes pour au Pakistan éventuellement faire d'autres gestes. Mais effectivement, les relations restent effectivement encore très tendues entre les deux pays. Régulièrement, il y a des plaintes côté indien, comme quoi il y a tirs frontaliers, vice-versa, côté pakistanais, on se plaint des tirs côté indien, sur la frontière, la ligne de contrôle.
Alors, ça me permet d'aborder la question de l'armée au Pakistan, et on en viendra à la question de la situation en Afghanistan. L'hebdomadaire britannique The Economist s'est intéressé ces dernières semaines particulièrement au Pakistan, et je le disais dans la préparation de cette émission, et je vous cite ce qu'écrit The Economist. Depuis 1947, écrit l'hebdomadaire, depuis la fondation du Pakistan, l'armée n'a pas seulement défendu l'idéologie du Pakistan, elle l'a définie de deux manières particulièrement destructrices. Le pays existe pour sauvegarder l'islam et non des citoyens tolérants et prospères. De surcroît, l'armée, convaincue que le pays est entouré d'ennemis, pense à l'Inde, promeut une doctrine de persécution et paranoïa. Invitation à commenter cette...
Oui, la formule est, je dirais, sans nuance. Je crois qu'il faut faire une distinction entre ce genre de propos et une analyse du pouvoir réel de l'armée pakistanaise, bien au-delà de ce qu'est son statut constitutionnel. On sait que les généraux, après des coups d'État, généralement des coups d'État non sanglants, ont gouverné le Pakistan par trois fois. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un certain nombre de civils, et je pense à Zulfiqar Ali Bhutto, qui ont été aussi responsables d'opérations aventureuses vis-à-vis de l'Inde. Reste que pour l'essentiel, et Imran Khan est dans une position semblable à ses prédécesseurs, voire plus faible, parce qu'on sait que finalement l'armée était satisfaite de son arrivée au pouvoir. Au-delà de ce qu'est supposé être l'idéologie du Pakistan, ou au-delà de l'armée voyant dans l'Inde un ennemi irrépressible, on sent bien que aucune décision diplomatico-stratégique ne peut être prise par le gouvernement civil si l'armée n'est pas d'accord, d'une part. Et d'autre part, on sait aussi que évidemment, ce monde privilégié des officiers supérieurs et de l'armée en général dans la société pakistanaise a besoin d'un ennemi permanent. Et aujourd'hui, il y a, si j'ose dire, deux ennemis. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'Inde de façon traditionnelle et puis, depuis Hamid Karzai en Afghanistan, il y a aussi l'Afghanistan. Puisque le cœur de la stratégie pakistanaise, c'est d'essayer d'éviter d'être pris en tenaille entre l'Inde d'un côté et un Afghanistan où le gouvernement serait, pour faire bref, pro-indien. Ce qui a été le cas avec Karzai. Et ce qui est aussi un soupçon aujourd'hui avec Ashraf Ghani à Kaboul. Donc, l'armée a un rôle décisif qui continue. Mais cela veut dire aussi que quand il y a des initiatives comme celles qui sont prises en ce moment vis-à-vis d'un éventuel dialogue entre Kaboul et les talibans afghans, on sent une apparente inflexion pakistanaise. Il est bien sûr impensable que cette inflexion n'ait pas l'accord de l'armée.
Inflexion pakistanaise ?
Pour faciliter le dialogue entre les Américains et les talibans. Et d'ailleurs, le gouvernement pakistanais s'en vante, ce qui renvoie évidemment à ce qu'était la sortie tonitruante de Donald Trump en début d'année, qui vouait le Pakistan aux hégémonies pour son double jeu traditionnel sur l'Afghanistan. Mais derrière tout cela, il y a évidemment les décisions et les options prises par les militaires.
Alors, pour poursuivre sur cette question afghane, Gilles Bokera, il y a plusieurs choses. Il y a le sénateur américain Lindsey Graham qui était récemment en visite à Islamabad et qui a appelé à une rencontre entre le président Trump et le premier ministre pakistanais. L'émissaire américain sur la région Zalmay Khalilzad, je ne sais pas si je prononce bien et sûrement pas bien, vient d'achever une tournée. Le départ annoncé de quelques 7000 soldats américains d'Afghanistan, c'est une victoire pour le Pakistan ?
Une victoire, la présence américaine, ça avait aussi les intérêts pakistanais. Hein. Les Pakistanais ont négocié chèrement le fait que l'approvisionnement des troupes occidentales et surtout américaines donc en Afghanistan se faisait par le territoire pakistanais. On pouvait lire dans la presse pakistanaise que Mollah Baradar avait été nommé pour diriger l'antenne talibane à Doha, à Qatar, pendant le cadre des négociations actuellement entre les talibans et les Américains. Donc, c'est un très intéressant parce que je rappelle que Mollah Baradar avait été arrêté en 2010 dans une opération conjointe des Américains et des Pakistanais, qu'il était emprisonné jusqu'en octobre 2018, qu'il a été donc libéré récemment par les autorités pakistanaises. Donc c'est un signe manifeste des Pakistanais de répondre aux demandes américaines pour aider à une sortie de crise en Afghanistan et une retrait équilibrer des forces occidentales en Afghanistan. Toujours la question, évidemment, de savoir qu'est-ce que les Américains veulent conserver en Afghanistan. On parle de base, ce qui est apparemment le principal point d'échappement avec les talibans.
Alors, un accord de paix en Afghanistan est-il possible en 2019 ? C'est la question. Et où en est-on ? Peut-être début de réponse et on poursuivra dans la deuxième partie de l'émission. Où en est-on des relations aujourd'hui entre le Pakistan et les États-Unis ? Le Pakistan, probablement, est le pire allié de l'Amérique. En tout cas, c'est ce que Trump peut penser. Il n'empêche que l'Amérique n'a pas d'autre choix que de persister avec le Pakistan, Jean-Luc Racine.
Absolument. Il y a un expert américain qui avait fait un livre sur ce sujet, à savoir, c'est incontournable. On aime, on n'aime pas, mais le Pakistan est incontournable pour tenter de résoudre la crise afghane. En deux mots, ce qui se passe aujourd'hui, derrière l'extrême complexité du jeu des uns et des autres, c'est quand même problématique. C'est qu'en principe, les Américains, comme la communauté internationale, acceptent le principe que la paix en Afghanistan ne peut être que le résultat d'une négociation pilotée par le gouvernement de Kaboul, alors que, aux dernières informations, mais tout cela n'est pas encore très clair, on peut craindre, vu de Kaboul, que les Américains négocient avec les talibans les choses qui les arrangent.
Comme quoi, j'ose même pas vous poser la question parce que la réponse va être trop longue, mais je propose qu'on poursuive dans la deuxième partie de l'émission sur la question afghane. Nous retrouvons nos invités, Jean-Luc Racine et Gilles Bokera pour cette émission. Alors la question afghane, mais pour une émission sur le Pakistan. Après le journal, nous nous retrouvons. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique regard sur le Pakistan. Nous retrouvons nos invités Jean-Luc Racine, directeur de recherche et chercheur senior à Asia Centre, et Gilles Bokera, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de Le Pakistan en 100 questions aux éditions Talendier. Jean-Luc Racine, on a terminé la première partie de l'émission sur la question afghane. Je vous posais la question de savoir si un accord de paix en Afghanistan serait possible en 2019. On évoquait la relation entre le Pakistan et les États-Unis. Le Pakistan qui est probablement, d'après Trump, le pire allié de l'Amérique. Mais l'Amérique a-t-elle d'autres choix que de persister avec le Pakistan ? Que sait-on des négociations qui ont cours entre Américains et Talibans ? Vous laissiez entendre que les Américains étaient prêts à finalement se mettre d'accord avec ce qui pouvait les arranger. Qu'est-ce qui peut les arranger ?
Oui, c'est le grand point d'interrogation. On est aujourd'hui, si je ne me trompe, au cinquième round de négociations. Maintenant, j'emploie le mot négociation. Il y a encore quelques mois, j'aurais dit dialogue ou tentative de dialogue.
Là, il y a vraiment...
Ce qu'on sait, c'est que les négociations portent, alors je laisse un certain nombre de points sur le côté, mais pour l'essentiel, portent sur ce que serait le calendrier du retrait des forces américaines. Et le gouvernement afghan s'est ému de l'annonce faite par Trump de vouloir retirer 7000 hommes sur 14000, si le chiffre de 14000 est correct, ce qui laisse parfois des points d'interrogation. Et les Américains ont évidemment rassuré, et le discours officiel afghan joue sur deux points. D'un côté, on essaie de rassurer là aussi en disant oui, les Américains nous ont convaincus que même s'ils retirent des hommes, la lutte contre les talibans sera garantie. D'autres se posent des questions. Et évidemment, le retrait de la moitié des troupes américaines risque quand même fondamentalement de fragiliser les choses. Et donc, vu de Kaboul, la question c'est les négociations actuelles entre les talibans et les Américains qui ont été facilitées par les Pakistanais, est-ce que finalement ça ne va pas servir les intérêts pakistanais et américains plus que les intérêts de Kaboul tant que les talibans refusent de discuter directement avec le gouvernement afghan. Donc l'ombre pakistanaise est toujours présente dans les esprits des gouvernants et de leurs opposants à Kaboul.
Et alors la question qui se pose est de savoir si cela ne va pas pousser les talibans à négocier directement avec les autorités de Kaboul. C'est une question, Gilles Bokera, je ne sais pas si vous souhaitez répondre et vous avez des éléments à ajouter ou...
Non, j'ai pas d'élément particulier sur la volonté des talibans de négocier directement avec le gouvernement de Kaboul, ce qui semble encore un peu éloigné. Par contre, je pourrais simplement rappeler quels sont les objectifs finalement pakistanais en Afghanistan. Un, la reconnaissance de la ligne du rang, mais ça, faut pas trop y croire non plus, parce que même du temps des talibans au pouvoir à Kaboul, les pakistanais l'avaient pas obtenu, et on sait que les pakistanais sont en train de construire un mur, enfin, entre guillemets, entre le Pakistan et l'Afghanistan. Deuxième point, c'est effectivement, quelle pourrait être la part des talibans au pouvoir ou dans un partage de pouvoir futur à Kaboul, et on a l'impression, effectivement, toujours la sensation au Pakistan que finalement les talibans seraient moins hostiles aux intérêts pakistanais propres que l'est actuellement le gouvernement de Kaboul, vu comme beaucoup trop proche de l'Inde. Et effectivement, on arrive au troisième point, c'est les Pakistanais voudraient bien voir l'influence indienne qui est réelle actuellement en Afghanistan décroître et s'estomper au fil du temps au profit de la sauvegarde des intérêts stratégiques pakistanais, au moins tels qu'ils sont perçus par l'armée pakistanaise.
Jean-Luc Racine, vous souhaitez rajouter quelque chose sur la question afghane ou...
Non, je pense que l'essentiel est là. Et dans l'actualité pakistanaise d'aujourd'hui, je crois qu'on a là les deux points majeurs. Le premier point par lequel on a commencé cette émission, ce sont les difficultés économiques. Et le deuxième point, c'est l'évolution de la question afghane qui remet le Pakistan en bonne posture, si j'ose dire, vis-à-vis de Washington.
Alors, sur la question géopolitique, Gilles Bokera, je ne vous ai pas relancé dans la première partie de l'émission lorsque vous évoquiez les visites du Premier ministre pakistanais dans les pays musulmans. Vous avez cité l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Malaisie. Quelle lecture faire de ce choix ? Est-ce qu'il y a un changement de stratégie de la politique étrangère pakistanaise ?
Non, il y a manifestement une volonté du gouvernement actuel de resserrer les liens avec l'Oumma, avec les pays musulmans, qui se manifestent par du fait de ces visites. Effectivement, c'est intéressant. Il y a quelques années, j'avais l'occasion de faire une tournée dans une université pakistanaise et demander, il y a un questionnaire dans le cadre d'une étude, soit à l'époque c'était la modération éclairée. J'avais demandé aux étudiants quels étaient les pays modèles. Et les trois premiers, enfin par ordre décroissant, le premier c'était la Turquie, la deuxième c'était la Malaisie, vu comme des pays musulmans progressistes, et le troisième pour certains c'était l'Arabie Saoudite, mais vraiment en troisième position. Donc on retrouve dans cette volonté d'Imran justement de se tourner vers, outre les besoins financiers qui ne peuvent être assurés que par les pays du Golfe, de se tourner vers des pays perçus comme des modèles économiques. La visite d'Imran à Cannes, à Kuala Lumpur, il a fait un discours dans lequel il avait dit clairement que nous prenons comme modèle économique le développement observé en Malaisie depuis ces dernières décennies. Donc il y a une volonté manifeste effectivement de mettre en avant les liens avec les pays musulmans.
Alors, est-ce que cela répond à ce besoin, cette nécessité, on évoquait les difficultés économiques du Pakistan dans la première partie de l'émission, nécessité d'intégrer l'économie pakistanaise au monde. Jean-Luc Racine, est-ce qu'on peut voir cet objectif, finalement, ça passera davantage par les pays musulmans que tout autre contexte?
Oui, le problème, c'est que cet objectif, c'est aussi un défi, parce que pour attirer des investisseurs étrangers, ce qui est quand même un des volets de la stratégie, il faut que la situation sécuritaire au Pakistan soit confortée. Alors, on peut penser que certains investisseurs du Golfe ou de la Malaisie ne regardent pas la situation sécuritaire pakistanaise comme peuvent le faire des investisseurs occidentaux. Mais ça reste un défi, et ça reste un défi aussi pour des raisons qu'on évoquait tout à l'heure, de déséquilibre des finances publiques pakistanaises, de la place du secteur privé dans l'économie qui est une place décisive, mais avec, ça a déjà été dit mais il faut le rappeler, des classes dirigeantes qui échappent quasiment à l'impôt. Donc tout ça forme une manière de cercle vicieux ou en tout cas complexe, où il est difficile d'espérer des changements rapides et positifs uniquement dans un canal. Il faut probablement repenser tout le système, et ça, c'est un véritable défi.
Alors, j'ai cette question, Gilles Bokhara. Comment le Pakistan est-il vu par les pays musulmans que nous évoquions, l'Arabie Saoudite, la Turquie, la Malaisie?
Une question difficile. Comment le Pakistan est vu par l'Arabie Saoudite? Un relais d'influence, notamment dans le cadre surtout du conflit qu'oppose l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça s'est manifeste. Ça s'est notamment manifesté dans les années 90, où chacun, iranien et saoudien, avait des relais sur le terrain parmi des groupes extrémistes sunnites ou chiites. Ça avait conduit à certains affrontements sanglants. Notamment, c'est toutes les questions qui se posent dans la visite qui a été faite par Imran Khan au Qatar. Certains ont dit, il va au Qatar, qui est en conflit avec l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'il n'y a pas incohérence dans la démarche pakistanaise? Maintenant, on parlait de l'Iran, juste un mot. Les liens économiques avec l'Iran, malgré le fait qu'il y ait une frontière commune entre le Pakistan et l'Iran, sont quasiment insignifiants. C'est plus des liens à la limite diplomatiques, parce qu'il y a finalement une forte communauté chiite au Pakistan. On l'évalue de 15 à 20% de la population pakistanaise. Donc là, c'est important. Mais en termes purement économiques, je rappelle notamment qu'il y avait eu ce vieux projet de gazoduc Iran-Pakistan qui devait même être prolongé jusqu'à l'Inde. Ça reste lettre morte à ce jour.
Alors, je l'évoquais précédemment, cette visite attendue de Mohamed Ben Salman au Pakistan en février prochain, donc dans quelques semaines. Là aussi, volonté de la péninsule arabique, Jean-Luc Racine, de pousser ses pions au Pakistan et dans une stratégie...
Alors, on va voir ce qui sortira de cette visite et s'il y aura vraisemblablement des déclarations conjointes. Parce que d'un côté, donc, il y a ces liens anciens, solides, importants... à tous égards et sur le plan géopolitique et sur le plan économique avec l'Arabie Saoudite, mais en même temps le Pakistan se dit être neutre dans la querelle saoudo-iranienne. Et les visites officielles entre Iraniens et Pakistanais sont très régulières. Donc, d'un côté, le Pakistan essaie de bénéficier de la manne saoudienne, et de l'autre côté, il sait bien qu'il n'a pas intérêt à être totalement aligné sur les Saoudiens. D'autant plus qu'on est quand même dans un grand jeu où donc les Chinois sont présents, les Russes ont fait leur entrée au Pakistan, y compris dans le secteur de la défense, ce qui est quand même une espèce de retournement par rapport à la tradition. Donc le jeu est de plus en plus complexe et les Pakistanais ont évidemment compris que même si un tropisme peut les pousser vers les Saoudiens, les Qataris ou les Émiratis, ils ne peuvent pas non plus tourner le dos complètement à l'Iran, d'autant plus que l'Iran a, on le sait, aujourd'hui des relations spécifiques avec Moscou.
Donc des questions d'équilibre particulièrement à maintenir et entretenir. J'aimerais qu'on aborde la question de la religion. On a beaucoup parlé de cette question à la fin de l'année 2018. Alors, il y a plusieurs choses. Jean-François Golosimo, qui est historien des idées et des religions, décrit le Pakistan comme une poudrière où l'islamisme fait la loi. C'est un propos qu'il a tenu dans un éditorial dans la presse française suite à l'affaire Asia Bibi. Alors, Asia Bibi, c'est cette chrétienne faussement accusée de blasphème. Elle a été condamnée à mort en 2010 pour blasphème, donc acquittée le 31 octobre dernier par la Cour suprême, libérée le 8 novembre de la prison où elle était détenue. Elle ne peut pas depuis quitter le pays. Ses enfants ont pu trouver refuge à l'étranger. Il y a un appel en cours. La Cour suprême examinera l'affaire le 29 janvier prochain, c'est-à-dire dans deux jours. Si invalidation de l'appel, Asia Bibi pourra quitter le Pakistan. J'aimerais que vous me disiez ce que vous inspire toute cette affaire et qu'est-ce que cela révèle du Pakistan aujourd'hui, Gilles Bocquerat.
On en revient en fait au quel est le fondement originel du Pakistan en 1947. Est-ce que c'est simplement un État qui s'est créé pour les musulmans du sous-continent indien qui ne voulaient pas être sous la domination d'une Inde soi-disant hindoue, ou est-ce un pays qui est porte-étendard de l'islam dans le sous-continent ? Par rapport à l'affaire Asia Bibi, le seul élément nouveau depuis le mois d'octobre, c'est en fait que Khadim Hossein Rizvi, qui est le chef du Tehrik-e-Labbaik Pakistan, qui avait donc fomenté ces manifestations suite au jugement rendu par la Cour suprême, est aujourd'hui apparemment en résidence surveillée. Donc il y a une volonté du gouvernement manifestement de reprendre la main et d'éviter des débordements qu'on a pu voir après le premier jugement de la Cour suprême. Maintenant, sur ce qui pourrait être rendu comme jugement, on voit mal comment la Cour suprême pourrait invalider son premier jugement malgré cette demande en révision, sachant que sur les trois juges qui avaient prononcé le premier jugement, il y en a deux qui seront à nouveau amenés à se prononcer la semaine prochaine.
Jean-Luc Racine, qu'est-ce qui se joue pour le Premier ministre Imran Khan dans cette affaire Asia Bibi ?
Il se retrouve face à un problème que ses prédécesseurs avaient connu, que ce soit Asia Bibi ou d'autres cas. Mais évidemment, Asia Bibi, c'est un cas qui a été mis en lumière sur la scène internationale. Donc, il faut faire très attention. On comprend bien que pour les gouvernants pakistanais, quelle que soit leur propre conception de ce que devraient être les relations de l'État à l'islam, ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est que des circonstances, des décisions dressent contre le gouvernement les radicaux qui commencent à entrer aussi dans le jeu politique depuis peu de temps, mais qui ont surtout une capacité de mobiliser la rue qui a fait peur, en fait.
Pays a été paralysé pendant trois jours.
Oui, mais c'est pas la première fois. Il a déjà été paralysé pour d'autres choses, également par ce même mouvement de Tehrik-e-Labbaik. Et lors d'un premier blocage d'Islamabad pour quelque chose qui n'était pas tout à fait lié à cela, on avait vu l'armée dans un rôle particulièrement ambigu. Là, le fait que le leader de ces ultra-extrémistes soit en résidence surveillée, ça m'étonnerait fort que ça se fasse sans l'aval de l'armée. Donc, la question est toujours la même. Jusqu'à quel point on laisse des marges de manœuvre aux plus radicaux ? Et ce qui est intéressant, c'est que sur cette question du blasphème, pendant longtemps, il y a eu des interrogations, entre autres dans les sphères américaines, en disant contre les radicaux islamistes pakistanais, il faut jouer la carte de ce qu'on appelle les barelvis, qui sont plus proches des soufis, cet islam populaire. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est qu'il y a un point sur lequel le nombre de membres de ce type d'islam est inflexible, c'est précisément la question du blasphème. Et il faut se rappeler quand même aussi, en dehors du cas d'Asia Bibi, qui est aujourd'hui donc hébergé et protégé par la police pakistanaise, la plupart des victimes de cette loi sur le blasphème, ce ne sont pas les minorités, ce sont des musulmans. Et on sait très bien que le blasphème est utilisé dans des querelles locales.
Des règlements de compte personnels.
Quand on a un ennemi, on associe cela, on l'accuse de blasphème. Le mollah du coin va se saisir de l'occasion, ça lui fait de la publicité. C'est ce qui s'est passé pour Asia Bibi. Mmh. Mais c'est ce qui se passe dans beaucoup d'autres cas.
Donc ce ne sont pas seulement les chrétiens, 3 millions d'individus sur les 208 millions de Pakistanais qui sont visés, c'est cela que j'entends, avec une législation sur le blasphème qui n'a cessé au fil du temps de se durcir, Gilles Bocara.
Oui, absolument. Mais de toute façon, la question du blasphème, c'est pas une question de remise en cause par la population pakistanaise. Il est clair qu'une grande, très grande majorité des Pakistanais sont en faveur de la loi sur le blasphème. Pour revenir sur les partis islamistes, si on regarde les élections de juillet 2018, ils arrivent en quatrième et cinquième position. En quatrième, c'est le MMA, c'est une alliance de partis religieux. Et en cinquième position, c'est le Tehreek e Labbaik Pakistan, donc ce parti qui est à l'origine des manifestations suite à la décision de se libérer Asia Bibi. Mais l'un dans l'autre, ça fait même pas 10%. Hein. Je crois que c'est 4,5% pour chacun d'entre eux, de ces partis, ces deux groupes. Donc les partis islamistes eux-mêmes ne représentent pas un poids électoral significatif. Mais par contre, ils ont un pouvoir d'agitation dans la rue, évidemment, qui dépasse très largement leur poids lors des élections. C'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que l'armée, effectivement, Jean-Luc en parlait, cherche à réintroduire les partis radicaux dans le jeu politique traditionnel afin, disons, de les calmer et de voir réellement quel est leur poids sur la scène politique pakistanaise.
En tout cas, c'est leur donner de l'existence, de la visibilité, afin que les choses ne se passent pas en sous-main et de façon plus violente. C'est cela qu'il faut entendre, Jean-Luc Racine ?
Oui, c'est sans doute ça qu'il faut entendre, avec des incertitudes, puisque il ne faut pas non plus caricaturer la situation, mais il est sûr qu'un certain islam radical très éloigné de ce qu'était l'idée première du Pakistan définie par son père fondateur Mohammed Ali Jinnah, mort dès 1948, c'est-à-dire sans avoir pu véritablement poursuivre son action et son empreinte sur le nouvel État, ces questions restent fondamentales, mais personne ne sait véritablement si ce poids, cette radicalisation croissante d'une partie des esprits va pouvoir durer, ou si des manières de compromis. Parce que c'est ça aussi la question. Si on fait entrer les extrémistes dans le jeu politique, très bien, mais encore une fois, ça a été souligné par Gilles Bocquera, il y a une dissociation qu'on voit pour les partis de l'islam politique traditionnel entre leur poids électoral modéré et leur poids idéologique et leur capacité de mobiliser la rue.
Alors, pour aller peut-être plus loin, je ne sais pas si c'est un élément important, mais en tout cas, il faut le signaler. Le Premier ministre pakistanais s'est fait élire en août 2018 sur la promesse de renforcer la charia.
Non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir les initiatives prises par les Pakistanais, notamment pour amener des touristes à revenir au Pakistan. Donc c'est contradictoire avec l'idée d'avoir la charia qui revient sur le devant de la scène au Pakistan. Moi, je vois observer ce qui a été fait récemment par l'ambassade du Pakistan ici. Notamment, il y a eu un séminaire sur l'Himalaya, par exemple, avec la volonté, forcément, que on fasse revenir des touristes au Pakistan. C'est totalement contradictoire avec l'idée qu'on puisse durcir le visage islamique du Pakistan.
Jean-Luc Racine, en guise de conclusion.
En fait, le Pakistan, quels que soient ses gouvernements, il faut noter quand même qu'il y a une pluralité de partis politiques qui se sont succédés au pouvoir, avec ou sans l'appui de l'armée. Mais la question centrale reste celle, justement, au-delà d'une conceptualisation de ce que serait l'identité pakistanaise, le problème de la relation de l'État à l'islam et de la société à un islam tel que défini ou accepté par l'État reste une question centrale.
Voilà, merci. C'est la fin de Géopolitique. Donc rendez-vous mardi pour la question de la Cour suprême qui examinera l'affaire Asia Bibi. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Jean-Luc Racine, directeur de recherche et chercheur senior à Asia Centre, et Gilles Bocquera, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de Le Pakistan en 100 questions aux éditions Talendier. Géopolitique a été signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. À samedi prochain.